Chers amis, bonjour. Le texte de notre étude aujourd'hui est très célèbre. Je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Voilà un texte qui a fait couler beaucoup d'encre. C'est le moins que l'on puisse dire. On ne compte plus les volumes de controverses qui ont été rédigés sur la signification de ces paroles que Jésus a adressées à Pierre. Nous connaissons évidemment l'explication traditionnelle qui catapulte littéralement Simon, fils de Jonas, jusqu'au sommet de la hiérarchie de l'Église pour en faire le chef de l'Église après Christ. La pierre sur laquelle Jésus a bâti cette Église, le prince des apôtres, principe fondamental, perpétuel et visible de l'unité de la foi, par lequel l'Église peut aussi prétendre à l'infaillibilité. On s'étonne de lire des commentaires capables de faire tant de déductions à partir de ces deux versets, surtout si l'on étudie ce texte à la lumière des autres textes du Nouveau Testament, qui font mention de Pierre ou de l'organisation de l'Église en général. À la vérité, ce n'est pas en épluchant ou en décortiquant ce texte par une exégèse approfondie que l'on peut en expliquer toute la signification et toute la portée pour l'apôtre. En fait, parmi les écrivains qui se sont succédés de siècle en siècle depuis le milieu du second siècle après Jésus-Christ, et que l'on appelle les pères de l'Église, on est loin de trouver l'accord unanime tant souhaité. Pour les uns, le « sur cette pierre » du Christ signifie « sur cette foi » ou « sur cette confession de ta foi » en m'appelant le Fils du Dieu vivant. Ainsi, Hilaire, Grégoire de Nice, Chrysostome, Cyrille d'Alexandrie, d'autres comme saint Augustin, disent que « sur cette pierre » signifie en réalité « sur moi le Christ », car Christ est le roc. Pour d'autres encore, comme Origène, « sur cette pierre » ne confère nullement à l'apôtre Pierre des prérogatives exclusives, car les mêmes bénédictions sont accordées à tous ceux qui font la même déclaration de foi que l'apôtre. C'est seulement à partir du haut Moyen-Âge que l'on identifia régulièrement Pierre avec le roc sur lequel l'Église est édifiée, comme si ce sens était le seul concevable. Nous reviendrons dans quelques instants à ces diverses opinions. Pour le moment, je vous propose d'aborder cette question par un côté que l'on néglige trop souvent. Certes, Jésus vient ici de s'adresser à Pierre et il semble lui avoir conféré certains privilèges. Comment l'apôtre Pierre a-t-il compris les paroles de Jésus? Comment les autres apôtres ont-ils compris ces mêmes paroles? Comment l'apôtre Pierre a-t-il exercé ces privilèges? Quelle a été la position de Pierre dans l'Église des sept premières décades? Voilà des questions susceptibles de nous éclairer copieusement, d'autant plus qu'il est relativement aisé d'y répondre, car le Nouveau Testament contient de nombreuses lettres, écrites par les apôtres Paul, Pierre, Jean, etc., et qui s'échelonnent sur les 70 premières années de l'Église. Nous avons dans ces écrits des indications très précieuses, des détails très significatifs et des silences très éloquents. De nombreuses prophéties dans l'Ancien Testament relatives à la venue du Messie sont obscures en elles-mêmes. Mais lorsque l'événement est arrivé, la prophétie s'éclaire et se justifie. De même, ce sont les événements qui nous disent comment la promesse ou la prophétie de Jésus s'est réalisée à l'égard de Pierre. C'est la seule manière d'évaluer à sa juste valeur la déclaration de notre Seigneur. Voyons d'abord quelle fut l'attitude des autres apôtres. Comment ont-ils compris ces paroles qui nous occupent? De toute évidence, ils n'ont pas compris que le Maître vient de désigner le chef suprême de l'Église, ainsi que leur propre chef. Car, jusqu'à la veille de sa mort, il y eut des contestations parmi les apôtres pour savoir lequel d'entre eux devait être considéré ou estimé le plus grand. Certains convoitaient même les places d'honneur auprès du Christ dans son royaume. La place d'honneur n'avait-elle donc pas été attribuée? Quant aux prérogatives des apôtres, l'on constate que les 12 sont unis dans les mêmes fonctions essentielles et que Pierre ne les domine aucunement. Ainsi, l'on oublie souvent que si Jésus dit à Pierre « Ce que tu liras sur la terre sera délié dans les cieux », il donne cette même autorité à tous les apôtres en leur déclarant « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. » Cela rejoint exactement le texte de l'Apocalypse qui décrit la ville sainte reposant sur 12 fondements et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Et le texte de Paul aux Éphésiens, dans lequel il rappelle « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En outre, lorsque ce même apôtre énumère les différentes fonctions qui régissent l'Église par ordre d'importance, il déclare « Dieu a placé dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, etc. » Et non pas, comme on veut quelquefois le laisser entendre, « premièrement, Pierre et secondement, les apôtres. » Nous le répétons, avec les actes des apôtres et les épîtres du Nouveau Testament, nous sommes en présence de l'Église en action pendant les 7 premières décades de son existence. Elle vit, elle prie, elle travaille, elle est organisée, elle remplit sa mission. Mais rien ne nous indique encore que Pierre y occupait une position de suprématie. Rien dans l'attitude de Pierre, des autres apôtres et de l'Église apostolique ne vient confirmer ou justifier la place que les hommes veulent lui attribuer aujourd'hui. Par exemple, lorsque l'Église de Jérusalem apprit que Pierre avait mangé avec des païens incirconcis, ce qui pour les Juifs était le comble de l'impureté, elle le fit appeler et lui adressa des reproches. Pour se justifier, Pierre ne fit pas appel à l'autorité suprême qu'il devait supposément détenir, autorité qui le laissait libre de prendre toute initiative utile à la bonne marche de l'Église. Il fit au contraire un long discours où il montra que c'est par une révélation de Dieu qu'il avait agi de la sorte. Nous retrouvons Pierre plus tard, participant à une grande conférence réunissant l'Église de Jérusalem et celle d'Antioche. Il y avait un litige très grave concernant le statut des païens récemment venus à la foi. L'apôtre Pierre va-t-il s'y révéler comme un évêque universel affermi, à l'autorité incontestée? En fait, il fera un discours dans lequel il rappelle son expérience parmi les païens, par la volonté de Dieu. L'on écouta ensuite Barnabas et Paul, qui racontèrent le succès de l'Évangile parmi les païens, puis ce fut Jacques qui prit la parole et trancha le litige en suggérant la solution convenable. En effet, dans l'église mère de Jérusalem, c'est plutôt Jacques qui faisait figure de conducteur et non pas Pierre. Lorsque l'apôtre Paul raconte sa visite à Jérusalem après sa conversion, il parle de ceux qu'il y a rencontrés d'une manière très significative en ce qui concerne le sujet qui nous occupe. Il ne parle pas de celui qui a été établi chef de l'Église et chef des apôtres, mais d'une manière assez générale, il parle de ceux qui sont les plus considérés. Et lorsqu'il cite des noms, il précise que Jacques, Pierre et Jean, qui sont considérés comme des colonnes, lui donnèrent à lui et à Barnabas la main d'association. Il reconnaissait que celui qui avait fait de Pierre l'apôtre des Juifs avait aussi fait de lui, Paul, l'apôtre des païens. Paul revendique ici son égalité à l'égard des apôtres et de Pierre. Ils étaient tous deux des missionnaires du Christ. Il n'y a rien ici qui indique que l'un est subordonné à l'autre, ou qu'il y avait à Jérusalem un pontife chef suprême visible de l'Église. Par ailleurs, Paul ne dit-il pas qu'il s'est trouvé un jour dans l'obligation de réprimander sévèrement l'apôtre Pierre en public? Voici textuellement ce qu'il dit. « Lorsque Pierre vint à Antioche, je lui résistais en face, parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart, par crainte des circoncis. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, il réprimanda Pierre en présence de tous. » Comment expliquer l'audace de Paul s'il était censé savoir qu'il s'adressait au chef de l'Église? Mais aussi, comment expliquer l'attitude hypocrite et lâche de Pierre s'il faut voir en lui le prince des apôtres et le fondement de l'Église? Certains tirent parfois argument en faveur de la suprématie de Pierre du fait que Jésus donna à Simon le surnom de Céphas, qui signifie Pierre. N'est-ce pas là un détail important? Mais que dire alors du fait que, peu de jours après sa promesse de bâtir son Église, Jésus est appelé Pierre Satan, dans une réprimande terrible. « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Mais alors, si Pierre n'est pas tout ce que l'on pense qu'il a été, ou tout ce que l'on voudrait qu'il eût été, comment comprendre les paroles que Jésus lui a adressées? Il suffit de lire les premiers chapitres du livre des Actes des Apôtres, qui sont indiscutablement centrés sur sa personne. Ce fut lui qui donna la première prédication après l'ascension du Christ, ouvrant ainsi la porte du salut à 3000 personnes en un seul jour. L'Église était née. C'est de lui encore dont se servit le Seigneur pour ouvrir les portes de la foi aux premiers païens. renversant ainsi les barrières d'un judaïsme nationaliste et appelant au salut toutes les familles de la terre. Voilà comment la promesse du Christ se réalisa en la personne de Pierre. Ainsi, tout s'équilibre, les événements éclairent et expliquent les paroles de notre Seigneur, mais ils les contredisent au contraire. Si, a priori, nous faisons de Pierre le chef suprême, le fondement inébranlable de l'Église et le prince des apôtres. Le Seigneur lui a donné des clés, nous les avons remplacées par un sceptre. Inutile de dire que dans cet honneur qui revint à Pierre de mettre l'Église au monde, en quelque sorte, et d'ouvrir la porte du salut aux païens, il ne lui était pas possible d'avoir de successeur, pas plus qu'Adam, dans son privilège d'être le premier homme. À la lumière des textes que nous venons de relever, nous pouvons constater que la plupart des interprétations que nous avons évoquées se rejoignent et se complètent. S'il est vrai, comme le dit l'Écriture, que personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ, les apôtres n'en sont pas moins considérés eux aussi comme constituant le fondement de l'Église, dans ce sens qu'ils ont été les instruments que Dieu a choisis pour l'établir. Ils en ont été les premières pierres vivantes. Et comme Pierre a joué un rôle primordial dans l'établissement de l'Église, on peut concevoir qu'il ait été considéré comme une pierre de ce fondement. Mais nous l'avons vu, il ne s'agit pas de confondre la pierre avec la tiare. Avec les Écritures, nous devons affirmer que le fondement unique, la pierre d'angle, le chef suprême de l'Église demeure le Christ, le Fils du Dieu vivant.